Interview.
1 du jour.
Vous écoutez Erdioa 107.5 et 101.7 FM, également sur internet www.rdwa.fr. L'interview du jour avec Flo.
Salut.
Avec Tom. Salut. Et Mallory.
Salut.
Et vous représentez Do Mantra Records. Commençons par présenter ce label.
Eh ben, je me lance. Do Mantra Records, c'est un collectif d'artistes qu'on a créé avec Flo. Donc, on est deux à le diriger et on fait de la prestation audiovisuelle, sonore auprès d'autres boîtes dans le culturel. Et surtout, on a nos productions à nous, c'est-à-dire le salon Do Mantra. Donc, c'est un salon en fait, dans lequel on fait venir des artistes, on les filme, et ils font une prestation live et aussi nos artistes du catalogue qu'on produit sur des EP, des créations ou des concerts.
Quel type de prestations vous faites pour l'extérieur, du coup, pas dans votre salon, là, pour le coup?
Oui, on a deux pans dans notre structure. Il y a un pan vraiment où on fait de la prestation pour les clients externes. Donc, on envoie nos caméramans, par exemple, sur un événement pour filmer ou des choses comme ça. Et puis, il y a un pan où on est vraiment sur nos productions à nous, où là, effectivement, c'est nos artistes, ou en tout cas, c'est notre prod, en fait, qui va financer le projet et le créer de A à Z, quoi.
Et toi, quel est ton rôle, précisément?
Alors, moi, je suis gérant de la structure. Parce que Flo était à Pékin jusqu'à très récemment, en fait. On a créé la structure à distance. Et donc, j'ai géré la structure sur place. Et maintenant, il est de retour. Donc, on est deux.
Et donc, Flo, c'est quoi ton rôle?
Alors, mon rôle, c'est un peu... maintenant que je suis de retour, c'est un peu couteau suisse, si tu veux. Donc, vu que Tom a fait beaucoup de choses puisqu'il était sur le terrain, moi, j'ai eu l'occasion de profiter des joies de la comptabilité à distance. Et sinon, on se partage les rôles en fonction des besoins pour l'instant. Alors, j'ai eu cette gestion de comptabilité à distance. Mais à la base, l'idée, c'est aussi qu'on était tous ensemble dans une démarche de production. Donc, ça rentre dans tout ce qui est développement musical, rechercher des artistes, et puis faire des plans pour le futur ensemble, pour la structure.
Présentez-nous le son de Do Mantra Records. C'est quoi votre...
Notre catalogue.
Votre catalogue, ouais. Qu'est-ce que vous cherchez comme artiste?
Il est très éclectique parce que, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que tous les artistes du catalogue sont des membres à part entière de Do Mantra, qui font aussi de la presta technique. C'est-à-dire que notre caméraman ou notre réalisateur, c'est aussi un artiste musicien. Donc, en fait, chacun a un petit peu son style. Donc, il n'y a pas vraiment une identité, on va dire... Enfin, il n'y a pas un genre posé sur le catalogue, mais il y a une identité quand même. Moi, je trouve, je la ressens en tout cas. Donc on a un artiste très électro comme Hooper, par exemple, qui fait de la lo-fi house. Moi, avec Eltat, mon projet solo, c'est plutôt pop indie, dans les vibes un peu Tame Impala, genre de choses. Flo, il a un projet un peu plus hip-hop, dark 90s, quoi, qui s'appelle Maliao. Il y a vraiment plein de genres, en fait, parce que chacun amène un peu sa patte. Et c'est ça qui est sympa dans le côté collectif aussi, finalement, quoi. On ne s'est pas mis dans une niche et calé sur un genre. Mais c'est un peu décrié, pas décrié, mais en tout cas, c'est pas ce que font la plupart des labels. Justement, un label, c'est aussi une étiquette et c'est une garantie d'avoir quelque chose qu'on est censé avoir en soi. Et là, nous, on a plus pris le postulat de dire en fait, on est plein d'artistes dans différents univers, mais si on met nos compétences en commun, on peut créer des choses aussi ensemble, comme le salon, et puis éventuellement vendre aussi nos prestations techniques si besoin, quoi.
Oui, donc du coup, comment comprendre comment ça s'est monté? C'est parce que vous vouliez vous rassembler sur des prestations techniques, vous vous rendez compte que vous êtes tous musiciens et que ça pourrait créer un label ou enfin...
C'était dans l'autre sens, en fait. On s'est tous réunis parce qu'on était musiciens et qu'on voulait créer ensemble des choses. Et puis on s'est rendu compte que on avait des compétences et qu'elles avaient de la valeur et que ça pouvait être intéressant dans le milieu culturel de les proposer à d'autres structures, en fait.
Mallory, toi, t'es fraîchement arrivée dans cette équipe?
Ouais, depuis janvier de cette année-là. Mmh. Et du coup, je commence à prendre un petit peu mes marques dans le label. Du coup, j'aide principalement aussi un petit peu pour la gestion de projet. Voilà, à la base, le contact s'est fait par rapport à un événement que j'avais organisé par l'asso sur lequel un des groupes est venu jouer, dont Tom, qui faisait partie du groupe. Et du coup, voilà, le but, c'est d'apporter un petit peu mon soutien sur tout ce qui peut être organisation d'événementiel, contact avec certains artistes, et après sur tout ce que ça implique de travailler dans un label également. On en apprend tous les jours.
Tu nous as amené plein de sons aussi, Tom.
Oui, carrément. Bah, justement,
alors, on commence par découvrir quelqu'un, alors.
Oui, tu peux lancer n'importe quel morceau, ils sont tous différents et tous cool.
On va demander à Flo par exemple, est-ce que tu peux nous parler Flo de Hello Robin, de Lucio Suzy?
Lucio Suzy, ouais, c'est le cousin italien lui. Eh ben écoute, Hello Robin, je vais plus te faire une description visuelle on va dire. Je pense que c'est le genre de truc, quand c'est l'été, qu'il y a un peu de soleil dehors et que t'es posé tranquille, et que tu bois, on va dire, ton pastaga, ça passe bien en fond, avec les copains, tu vois. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Je pense qu'il faut écouter, c'est particulier. I can see you around, can't keep my feet on the ground. I want you to give me the sound of your voice. I can't cry today when you're far away. I want you to stay and I want you to say hello, hello.
De retour sur RDOA 101.7, 107.5, toujours avec Tom, Flo, Mallory, pour le label Doomantra Records. J'entendais que vous alliez chercher des artistes.
Alors, on signe plus de nouveaux artistes à proprement parler, parce que en fait, les productions en interne, ça vient de nous. En fait, c'est quand on a envie de produire quelque chose, et on sait que la structure sera là pour accueillir le projet. Par contre, quand on va chercher des artistes, c'est pour le salon, en fait. C'est le salon Doomantra dont je t'ai parlé tout à l'heure.
Alors, reparle-nous de ce salon. Qu'est-ce que vous y faites précisément?
Alors, c'est un salon. En fait, c'est une scénographie avec une moquette en circulaire qu'on déplace dans des lieux différents. où on fait venir par session 6 ou 7 artistes, en fait.
Il y a quoi dans le salon ? Des canapés ?
Il y a des canapés, il y a une grande table circulaire avec deux mantras dessus, il y a des monticules noirs en bois, il y a des lampes, etc. C'est très 70s dans la couleur, et il y a beaucoup... ouais, c'est très en tissu. Ça, c'est un scénographe qui s'appelle Nicolas Briat qui a travaillé dessus. Et du coup, on filme à 3 ou 4 caméras, ça dépend. Les prestations des artistes. Et pour ça, on va chercher les artistes, en fait, parce qu'on aimerait élargir le cercle, en fait. Pour le coup, le salon, c'est important pour nous que ça reste ouvert aux autres et que d'autres artistes puissent venir. Par contre, gérer un label en signant des artistes, en faisant la production, ça nous demandait de trop materner les projets des autres, alors qu'en fait, on avait quand même le besoin de s'occuper de nos projets et après de proposer des choses aux autres dans un certain cadre, en fait, quoi.
Et du coup, on va demander à Flo, ils viennent pour y faire quoi, ces artistes, dans ce salon ? Des clips, des trucs comme ça ?
Alors, l'idée du salon, comme Tom l'a dit, c'est un peu une vitrine, en fait, qui nous permet à nous de montrer ce dont on est capable visuellement parlant. Et pour les artistes, en fait, ça leur donne un produit, je dirais, poli, qui leur permet d'avoir de l'exposition et puis de montrer aussi... au monde, ce qu'ils sont capables de faire en matière de live.
Donc on ressort avec quoi ? Une démo, un clip,
une vidéo de la performance, en fait. Une vidéo de la performance qui est montée et qui est relativement fluide. Première édition, on était vraiment sur en fait, la performance de 20 minutes, plus petite interview à la fin. Et là, sur la deuxième édition, c'était morceau par morceau. Donc là, on se cherche un petit peu sur le format vraiment le plus adapté. Mais c'était vraiment inspiré de... Je ne sais pas si tu connais la chaîne américaine KEXP. C'est une radio à Seattle qui, en fait, dans ses locaux, ils accueillent tous les artistes qui sont en tournée. C'est des locaux un peu fermés où il y a des caméras, ils filment les artistes sur cette performance. Donc c'est parti de là. Puis après, il y a eu d'autres inspirations comme le Tiny Desk de NPR, où là, c'est carrément, ils sont dans une petite bibliothèque, ils jouent tous leurs sets en acoustique. Donc on est vraiment parti de ces chaînes-là qui nous intéressaient, en fait. On trouvait ça super que des artistes puissent venir proposer un format différent que le concert, dans un contexte bien particulier, avec un décor particulier. Et qu'ils en ressortent avec une vidéo de performance live, quoi.
C'est ça aussi, c'est que les lieux proposés, généralement, c'est toujours choisi de manière assez atypique et originale, ce qui fait que même pour les artistes qui viennent, du coup, ça leur permet d'avoir déjà un rendu audiovisuel de qualité, parce qu'il y a du bon matériel et qu'ils savent bien travailler, et qu'en plus, les lieux en eux-mêmes ont quelque chose... d'original qui se retrouve pas forcément ailleurs.
Voilà, donc le salon, c'est un décor fixe, mais que vous déplacez un peu partout. On peut faire un salon à la neige, à la mer, à Pékin.
On adorait, ça aurait été génial. Pour l'instant, ça a été dans une usine. C'était une aile désaffectée de l'usine vivante à Cré. Et dans un château, c'est le château des Ramières Alex, où il y a le collège et l'ensemble scolaire de l'archipel. Et du coup, c'était deux lieux très différents. On avait l'usine qui était un peu plus froide, dans les tons un peu bleus et blancs, avec une grosse profondeur de champ, parce que c'était très très long. Et le château qui était un peu plus étriqué, mais qui était beaucoup plus chaud. En plus, c'était filmé en été, pas en hiver. Donc c'est marrant, en fait, que ce salon aussi prenne différentes couleurs en fonction du lieu où on le met. Mais on avait vraiment envie... le prochain, c'était très utopiste dans l'idée, on aurait voulu le faire dans un parking souterrain, mais c'est trop compliqué en termes de gestion technique.
Mais donc plutôt des lieux fermés.
Je pense que de toute façon, le critère, ce sera surtout technique, en fait, c'est-à-dire s'il faut mettre un groupe électrogène ou ce genre de choses, forcément ça va impliquer plus d'argent au niveau de la production, etc. Donc on fait un petit peu comme on peut avec les fonds qu'on a. Mais je pense que l'envie, elle est là, de toute façon, on a envie de faire un truc en extérieur à un moment aussi, quoi.
Et Flo, pourquoi tu étais à Pékin ?
Alors, j'étais à Pékin parce que Tom et moi, en fait, on a fait les mêmes études. On a fait des études de langue, donc anglais et chinois. Et quand j'ai eu l'occasion de partir là-bas, et ben, j'ai décidé d'y rester. Et j'ai eu l'occasion à Pékin un peu de découvrir aussi leur scène musicale. Parce qu'à la base, je suis parti à Pékin parce que c'était la ville punk. Et quand j'y suis arrivé, en fait, les punks... partaient un peu, ils avaient été, comment dire, reconditionnés, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est pas trop chinois le punk, mais ils avaient, c'est quand même une musique qui sort de, entre guillemets, une certaine oppression, et donc tu peux imaginer que les Chinois avaient beaucoup de choses à dire. Et donc, à ma grande surprise, quand j'y suis arrivé, les punks avaient disparu, mais il y a une grosse scène underground techno que j'ai eu l'occasion d'apprécier pendant 6 ans, et ça, c'est incroyable le contraste qu'ils ont là-bas entre cette image extrêmement stricte et ces règles et cette surveillance qu'il y a, et dans ces clubs souterrains où c'est du grand n'importe quoi, en fait. Et donc ça a été vraiment intéressant de voir d'avoir pu être le témoin de ce genre de choses là-bas. Donc c'est pour ça aussi que j'y suis resté. Ouais.
Et qu'est-ce que tu ramènes du coup de Chine dans Doom Entra Records et ici en France ?
Et bah de l'argent, non je rigole.
C'est partiellement vrai.
C'est partiellement vrai. Ah.
Non, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler en Chine et que c'est un peu un pays qui ça fait quelques années depuis qu'ils se sont ouverts, qui vit une explosion économique assez fulgurante. Donc j'ai pu avoir l'opportunité de profiter de ça et c'est aussi ce qui nous a permis de pouvoir développer des projets au sein du label. Mais en plus particulier, ce que je ramène, c'est donc il y a un truc qui est vraiment intéressant en Chine et surtout dans la scène musicale, c'est que ils ont, en règle générale, on a quand même cette idée que les Chinois sont extrêmement efficaces quand ils travaillent. Et je peux te dire que c'est vrai. et j'étais surpris par la qualité de son des lieux, peu importe le lieu où tu vas. En fait, par exemple, les lieux où les groupes jouent, généralement, tu ramènes pas d'ampli, tu ramènes pas de batterie. Tout ce que tu ramènes, c'est ton pedalboard, ta guitare, si tu as un groupe. Et ils ont des systèmes son qui sont assez incroyables. Et vu que c'est une espèce de fourmilière géante, cette ville, si tu veux, en termes de logistique, ils sont prêts à ce niveau-là, en fait. Et toutes les salles ont un son assez incroyable. Et voilà, alors maintenant, c'est beaucoup plus poli. Et si tu veux voir des trucs vraiment qui sortent de la norme acceptable par le CCP, il faut aller dans des endroits un peu cachés, quoi, qui se font assez souvent fermés, hein, en fait.
Donc, il a ramené de la qualité et de la rigueur, quoi.
Alors, c'est assez paradoxal que ça vienne de Flo, mais par contre, il a effectivement, enfin, en tout cas, on s'était mis comme mot d'ordre de faire des choses de qualité, et même s'il y a toujours le DIY en fait dans le fonctionnement interne, c'était important pour Flo et pour moi qu'on puisse fournir quand même des produits de qualité. Bah, déjà parce qu'en tant que musicien, tous les deux, on est des perfectionnistes un peu chroniques. Ça s'est vu les moments où on a enregistré des albums ensemble sur d'autres projets qu'on a fait. Et aussi parce que je pense qu'en fait, si on n'arrive pas à toujours fournir un produit de meilleure qualité ou d'essayer de viser un peu plus haut, il y a un moment où on stagne en fait et on reste un peu dans notre confort. Et en termes de création, c'est beaucoup moins stimulant. Et donc, je pense que c'est un prérequis pour nous, mais c'est aussi un besoin. C'est-à-dire que si on n'a pas cette stimulation, on va peut-être avoir moins envie d'avancer, on aura moins l'envie qui sera là, quoi. Cette idée de toujours aller chercher un peu plus haut, quoi.
Il y a plein de morceaux, on disait que tu nous as ramené, Tom. Est-ce qu'il y a un peu de punk là-dedans ?
Il y a le groupe Smoking Pistols, mais je crois qu'il n'est pas sur,
non,
sur la liste.
Non, tu nous as pas mis ça.
Mais tu peux peut-être envoyer du mail à Léo, parce que dans l'esprit, Flo est un punk, comme il le dit.
Ah, donc ça, c'est le projet de Flo.
Exactement, projet solo.
Bon, tu nous diras si t'aimes.
Je vous dirai.
Thank you. Pink Past, c'est le titre. Alors Flo, ça t'a plu ?
Écoute, on va dire que je me tolère, tu vois.
Le fait que vous soyez comme ça dans plein de styles de musique différents, finalement, ça fonctionne, c'est bien perçu.
Personnellement, je serais un peu après, mais je suis assez content de ça parce que je me sentirais un peu bridé d'être dans un fonctionnement de label parce que j'ai eu travaillé dans des labels où effectivement c'était qu'une ligne artistique. Et là, j'ai l'impression que du coup tout est permis. Moi, je suis super content en fait de pouvoir bosser sur plein de projets différents. Même quand je suis DA d'un projet, j'étais le DA du projet Duper sur l'électro et j'ai adoré quoi. Donc moi, je pense, enfin j'adore ça, mais je pense qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça, avec ce côté ouais, très éclectique. Et on a déjà eu, enfin moi j'ai déjà eu la remarque plusieurs fois, c'est-à-dire votre catalogue n'est pas homogène, ce genre de choses.
Après, qu'est-ce qu'il y a, ça perd les gens ou ils osent pas aller de l'un à l'autre?
Non, je pense que c'est un peu comme les restaurants, tu vois, si t'as un restaurant, je sais pas, indien ou turc auquel tu vas, que t'aimes bien, tu t'es sûr de ce que tu vas avoir quand t'arrives là-bas, quoi. Il y a un petit peu ça, en fait, avec les labels. Et nous, c'est vrai que, voilà, tu sauras pas quel plat t'auras le jour où t'y vas, quoi. Mais ça, je trouve ça plutôt cool, finalement. Mais je pense que c'est quelque chose d'une habitude, en fait, où les gens, ils ont besoin même avec les artistes, en fait. Quand tu vas écouter un artiste, tu te dis, ouais, je sais que cet artiste-là, il va envoyer du lourd, donc je vais aller écouter cet artiste. Et t'as une sorte de garantie un petit peu de ce que t'auras. Et c'est vrai que nous, il n'y a pas cette garantie-là. Mais par contre, j'aime bien ce côté un peu plus surprenant, quoi.
Tout d'un coup, assez facilement, vous pouvez complètement passer à un autre style de musique.
Je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'il y a une certaine cohérence, alors qui est peut-être un peu dure à capter dès le début. Mais je dirais que cette cohérence, elle vient de notre intention à tous et de l'importance qu'on accorde à la musique, en fait. Et c'est là où on se retrouve... Et c'est là où, bah, par exemple, l'album qu'on a produit de Cheetah Flowers, ce qui est intéressant, c'est que c'est tous les musiciens du label qui ont produit cet album. Et ça a été produit extrêmement vite. Et on s'est rendu compte, au moment où on avait toutes les pistes, qu'il y avait une cohérence en fait, entre ces pistes. Et donc, ça rejoint ce que je te dis avant, où c'est notre intention, en fait. La musique, c'est important pour nous. Et je pense qu'on se retrouve tous là-dessus. Et le style... C'est pas très très important. Tant que la bouffe est bonne, j'ai envie de dire peu importe le plat.
Moi, c'est ce qui m'a donné aussi envie d'intégrer le label Doom Mantra Records. C'était parce que justement, c'était pas un label qui était fixé juste sur un style en particulier. Et que pour moi, je trouve que ça rend la possibilité d'opportunités ou de projets bien plus vastes qu'on est capable d'accepter. Tout artiste ayant quelque chose à produire, à créer et à partager. Je trouve que c'est plus un avantage pour un label de pouvoir proposer plein de styles musicaux que de se conformer à du rock ou à du rap ou à du hip-hop qui, du coup, peut fermer aussi un petit peu des possibilités.
Oui, j'allais dire même pour des événements, par exemple. Enfin, c'est plus facile de quasiment placer tout le monde en tournée là où...
Complètement. Ouais. Complètement, même sur,
un peu de ça, ouais.
Bah, sur les salons, moi par exemple, j'adore passer d'un salon à l'autre et passer d'un style à l'autre complètement différent. Quoi. Ça, je trouve ça super. Parce que c'est ce que j'apprécie aussi chez les chaînes qui nous ont inspirés. Tu sais qu'il y a eu XP, etc. Tu cliques et tu sais pas ce qui va tomber. Quoi. Et sur les événements, justement, en fait, ça nous permet aussi d'accéder à une bien plus grande audience. On a fait des événements plutôt électro, lo-fi, etc. Et donc là, on était carrément sur un public qui était... fan de cette niche-là. Et puis sur cet événement, on a ramené Young Neko et Cheetah Flowers, qui sont plutôt dans le hip-hop, et qui sont venus chanter au début, et les gens ont adoré. Et puis là, pour l'événement de Big Idea et Smoking Pistols qu'on organise du coup le 19 mars, c'est pareil, il y aura un DJ après. Et en fait, je trouve ça super cool que tout se mélange, parce que ce que dit Flo, moi aussi, je le ressens très fort au quotidien, c'est en fait, c'est la musique qui est importante, et l'intention qu'on y met. Après... le style ne modifie pas le vecteur, en fait, c'est juste une couleur un peu différente, quoi. Mais qui peut être appréciée par les mêmes personnes, en fait.
Et puis si en plus vous faites ce travail d'ouvrir systématiquement dans vos événements à ramener tel ou tel style à côté...
Et ça rend le projet homogène aussi, finalement, de le jouer comme ça, quoi.
Même pour l'événementiel, c'est toujours cool d'aller voir un concert en sachant que la première partie, ça va être un peu de pop, après ça va être du rap et ça va finir en punk. Enfin, tu sais que tu vas passer une soirée en découvrant plein d'artistes différents, avec plein d'ambiances différentes, et puis des publics aussi justement qui se rejoignent. Je pense que ça permet une mixité aussi des publics.
Ça rejoint aussi les playlists stream, hein, qui au bout d'un moment, l'algorithme part en live et puis on se laisse glisser. Est-ce que ça vous a ouvert le marché chinois? T'en as profité, Flo?
si tu veux, la Chine, là où ils en sont maintenant, ils sont extrêmement influencés par tout ce qui est américain, quoi, comme la plupart des pays, mais en particulier le hip-hop américain, où ils tombent vraiment dans un... Ils arrivent à avoir leur forme de hip-hop, mais ils sont très influencés par le hip-hop 90, donc ils ont le style vestimentaire. Ils n'ont pas les références, en fait, qui vont avec ce style-là. Mais ce que je dirais, en fait, c'est ce que ça m'a apporté là-dessus, c'est qu'ils ont une espèce d'innocence là-dedans et ils ne se mettent pas vraiment de limites. Ou ici, quand tu fais un groupe de rock ou un groupe de hip-hop, tu es vite bloqué dans ton style et ça peut te porter préjudice, en fait, sur le long terme, parce que tu ne te permets pas de faire des choses nouvelles. Alors que tous les artistes qui ont tendance à faire du bruit, c'est des gens qui ont fait leur truc. Et la musique était plus importante que le style, en fait.
On envoie Cheetah Flowers, alors, du coup.
Sur un featuring avec Young Neko, rappeur du label et aussi. Pardon.
You make me mad and sad. Baby, I can't call it bad. But instead, I'm just glad. Instead, I'm just glad. Loneliness is being content with less. A woman of power in the hands of a robber. I'm feeling bored 'cause nothing happened. I'm feeling gloomy 'cause I'm slacking. And I'm searching the rhyme, you're searching the crime. It's bedtime and you're sublime. Maybe I'm full time, so make me shine. And maybe pour us some wine. It's so hot getting the vibe exactly like you describe. It's so hot getting the vibe exactly like you describe.
I remove my glove and confess in my love. I know it's rough and above. Maybe I can't call it bad. But I'm beloved and you're sour. But I'm beloved and you're sour. But tell it to pass tomorrow. But baby I'm so narrow. I put a face to my kin. She can look a hell of a pill. I put a face to my kin.
Hey, hey, I'm a boy, we're a boy. Ain't no buzz, but we sure. 'Cause we were way too much. How these hoes, bitch. I would say that we born like a boss. We're born like the low bitch. Pretty, pretty sure that easy is a boy, yeah. Boy, yeah. I can tell you know that I would die for. Shit, 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 I'll wait for ya. Can you get into me, I'm waiting for ya. When you will, we can get it for ya. Ain't no good shit, get your will, boy, yeah.
I remember my glove and confessing my love. I know it's rough in the ball. Baby, I can't call it bad. But I'm beloved and you're sorrow. But I'm beloved and you're sorrow. But tell it to pass in my world. So narrow, she can look a hollow happy. I put a face to my kin. She can look a hollow happy. I put a face to my kin.
C'est magnifique, instant beauté sur RDWA avec Doumantra Records. Merci d'être avec nous, 107.5, 101.7. Qu'est-ce que c'est comme structure en fait, une asso?
C'est une association avec deux membres d'honneur, donc Flo et moi, et puis on va dire des adhérents à l'association. Donc les autres membres en fait ont leur micro-entreprise. C'est-à-dire que dès qu'ils font une prestation dans le cadre de nos mantras,
par exemple ceux qui sont caméramans, ils ont leur,
voilà,
ils ont
leur... niveau formel. Après dans le cœur, ils sont dans nos mantras et la team de nos mantras en fait c'est 10 personnes. Et alors après il y a des départements dans le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a le département vraiment prestation audiovisuelle où là on a Colin, Robin et Arthur qui eux sont vraiment spécialisés sur la captation audiovisuelle, la captation sonore et le montage vidéo. Et puis après, on a le département plutôt production son, où là, c'est Flo Pierrick, qui est aussi notre DA du label, et moi, où on s'occupe plutôt des
DA,
productions.
DA, directeur artistique.
Directeur artistique.
C'est plein de fois que tu le dis, mais...
C'est vrai, ouais, je précise jamais. Ça me paraît normal.
Là, pardon, je t'ai coupé. Et toi, donc, après ?
Et moi, ouais. Ouais. On fait vraiment de la direction artistique de projets type EP, comme l'EP Cheetah Flowers ou Young Neko. En fait, on prend le projet de A à Z, on travaille avec l'artiste pour arriver à un moment où l'EP est là, on le poste sur les plateformes. On presse jamais en physique. Jusque-là, on n'avait pas envie de se lancer là-dedans. Et puis, on distribue sur les réseaux. Quoi.
Ça fait 6, que font les 4 autres ?
Alors, il y a Laurent Roy qui est en développement web. Donc, lui, il a sa boîte qui nous aide beaucoup sur tout ce qui est développement de notre site, sur des stratégies un peu adoptées en ligne, etc. Il y a donc Raphaël qui est plutôt chargé de com, qui est aussi Young Neko qu'on vient d'entendre, le rappeur. Donc là, on est à 8. Il y a Mallory qui nous aide du coup sur l'événement et sur plein d'autres choses. Et pourquoi j'ai dit 10 ? J'ai déjà oublié quelqu'un. Tant pis pour lui. Hein.
Il en faut toujours. Hein.
Flo, tu
peux pas aider ?
Non, là, tu viens me creuser un trou. J'ai pas envie de...
Ah ouais. Non, mais j'étais persuadé qu'on était 10, je sais pas pourquoi. Et après, c'est vrai qu'en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que les artistes font partie de la structure. Donc, par exemple, Cheetah Flowers, pour moi, fait partie de mon travail parce qu'elle est dans le label. Quoi. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas membre actif dans le fonctionnement, au quotidien. Quoi. C'est plutôt...
Alors, on se retourne vers le comptable forcé, au bout de la ligne de Zoom. Flo, c'est quoi le modèle économique ? Comment vous fonctionnez ? Comment vous vivez ?
Alors, c'est une très, très bonne question.
Quand on dit ça, si c'est qu'elle est très chiante, en fait.
C'est ça, je ne sais pas si je peux te répondre sans avoir mon avocat à côté de moi. Alors, le modèle économique, si tu veux, pour l'instant, ce qui était clair pour nous, c'est qu'il fallait développer une base solide pour qu'on ne soit pas là juste à démarcher des gens ou à essayer de se vendre avec juste une idée, en fait. Donc là, on est dans une phase de construction de cette base qu'on a déjà. Donc là, si on commence à démarcher des gens pour un salon, on peut déjà montrer ce que le salon est. Ensuite, le modèle économique, en fait, se développe au fur et à mesure. Et dans l'ère d'Internet aujourd'hui, en fait, ce qui est assez clair, c'est que tu développes un réseau, et c'est devenu bien plus facile de développer qu'avant. Et ce réseau est monétisable après. Donc, comme je te le dis, pour l'instant, c'était voilà. On a investi dans les fondations du label, et maintenant, on est dans une phase de monétisation qui va se faire progressivement au travers de l'événementiel, au travers du salon, et au travers des idées farfelues qu'on aura.
Et des prestations.
Ou Tom essaye de me cadrer généralement, parce que j'ai tendance à partir sur la lune les trois quarts du temps, mais voilà.
Mais du coup, là par exemple, les réseaux, quand on dit monétisable, j'en cite un, c'est peut-être pas celui-là, mais type YouTube, où on peut mettre du contenu dessus et recevoir le fruit des pubs.
C'est ça. Dans le modèle économique de base, c'était ça. Après, c'est pour ça qu'on a commencé à adopter ce fonctionnement, on va dire, un peu bicéphale, où... Il y avait un moment où on s'est rendu compte que ça arriverait dans trop de temps, en fait, que ça prendrait trop de temps de vraiment générer un revenu de ça. Comme dit Flo, il faut que ça prenne du temps, quoi. Et donc, on a dit, bon, on va monétiser plutôt nos compétences dans l'immédiat, toujours dans notre secteur et toujours dans un milieu où on est à l'aise. C'est de là qu'est venue les idées de prestations, en fait.
Alors, par exemple, des prix de prestations, allons-y, vendez-vous, quoi, Flo.
En fait, les artistes avaient l'opportunité de pouvoir participer au salon de manière gratuite, et l'échange qui était fait était plus sur un terme d'influence, en fait, si tu veux. Donc notre échange était fait là, nous on leur donnait un produit qui leur permettait eux de démarcher, par exemple, si je prends juste l'exemple des concerts, tu vois, si t'as un petit groupe qui commence et que tu viens faire un tour dans le salon, t'as un produit super pour démarcher les concerts, tu dis voilà, c'est ça qu'on donne en live, et en plus on leur donne un truc qui a un certain cachet, une certaine esthétique. Donc ça, c'est eux, c'est ce qu'ils gagnent. Nous, on gagne un accès à leur réseau. Et donc, il y avait un échange assez correct à ce niveau-là, qui nous semblait assez juste. Maintenant, le salon est en évolution. Donc voilà, donc ta question, c'était combien ça coûte ? Eh bien, vu que tout le monde a une micro-entreprise, si tu veux, toutes les micro-entreprises ont des tarifs différents. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en règle générale, par rapport au prix du marché, on est un peu en dessous, volontairement, puisqu'on est dans une phase de construction. Donc aujourd'hui, si tu veux avoir une équipe qui fait prise son et vidéo sur une journée, tu vas en avoir pour un... aux alentours de... Tom, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, aux alentours de 1000 balles, peut-être même plus.
Ouais, c'est ça.
En comprenant montage et tout ça. Et nous, on tourne à 70% de ça, voire un peu moins.
Souvent aussi parce qu'on a, travaillé dans le secteur culturel avec des structures avec lesquelles on était plus ou moins partenaires, où il y avait une sorte de donnant-donnant aussi, hein, parce que finalement, il y a beaucoup de ça dans le culturel, en tout cas de ce que moi j'y ai vécu. Mais c'est vrai que voilà, un monteur, ça, par exemple, ça va prendre 200 à 300 euros la journée sur des salons avec 7 artistes, des vidéos de 20 minutes. Je te laisse deviner que ça c'est exponentiel au bout d'un moment. Et ça, c'est juste le montage vidéo, donc après... Il y a captation, vidéo, etc. Ça, c'est les prix du marché, comme il dit Flo. Après, nous, en fonction aussi de l'enjeu qu'il y a derrière la prestation, on essaye de faire en sorte que ce soit abordable. Mais c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'immédiat où on a besoin en fait, de survivre financièrement. Donc, on met en avant ces prestations. Mais pour moi, le cœur de la structure, ça reste quand même les productions qu'on avait envie de faire et qu'on a faites, quoi.
Et c'est donc toute la question. Est-ce que vous vivez de votre travail ?
Pour l'instant, non, parce que
donc après, c'est quoi ? C'est des statuts d'intermittent pour les musiciens ou les artistes ? C'est vivre des concerts et des ventes éventuellement sur des plateformes ? Plus les prestations ?
C'est ça, c'est un puzzle de tout qui va faire que ça va s'équilibrer au moment, parce que c'est une structure assez jeune, hein, c'est un an et demi en fait. Et je pense que ça va s'équilibrer un petit peu avec tout, et tout le monde va s'y retrouver aussi en fonction de son besoin. Sur la musique, vraiment sur la distribution digitale, on n'est pas à des nombres de streams suffisants pour générer un revenu. Donc ça peut être un doublon entre les concerts et les ventes sur Bandcamp d'albums ou les streams qui peuvent ramener au bout d'un moment un petit peu d'argent. Pour les artistes, et vu que tous les artistes sont aussi couteaux suisses et font aussi de la prestation, je pense que ça va s'équilibrer comme ça parce qu'il n'y a aucun artiste qui a vocation à être intermittent dans le label.
On se met un autre morceau avant de parler des projets.
Carrément.
Je vois Swim Low. Flo, tu nous le présentes ?
C'est super. Donc ça c'est Tom, donc El Tat, qui nous fait un peu de soul avec sa petite épice secrète. Et voilà.
There's no need to lie.
C'était donc toi, Tom?
C'est moi, Eltat, voilà.
Maintenant, on va parler des projets. On va parler aussi de où vous êtes basé, puisque bah, vous n'êtes pas si loin de ce studio, d'ailleurs, Adi. Vous êtes dans le Crétois.
Oui, depuis le début du projet, moi, je suis basé à Cré. Il y a Robin et Colin donc, qui sont à Bruxelles, Arthur qui est à Paris, Flo qui était à Pékin, qui est rentré, qui est à Grenoble, et Raph qui est à Lyon, et Tita Flowers qui est à Lyon.
Oh, bordel.
C'est un peu le bordel. Ouais. En fait, je suis à Cré, et du coup, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses dans ce territoire-là, parce qu'on on venait tous plus ou moins de là. Et je connais beaucoup de gens avec qui on pouvait faire des choses cool, quoi. Enfin, notamment les lieux, tu vois, des salons. L'usine vivante, le château des Ramières, c'est des lieux que j'ai côtoyés, donc c'est plus facile d'avoir des lieux assez sympas et accessibles dans ce milieu-là que d'aller en chercher à Paris ou à Lyon ou à Bruxelles, quoi.
Mais ça pourrait.
Mais c'est notre envie carrément. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas non plus trop crié sur tous les toits qu'on était un label drômois, parce qu'on voulait, encore une fois, pas être étiqueté.
Mais est-ce que vous êtes un label drômois, du coup?
Bah non, en fait, puisqu'on n'a qu'une personne dans la Drôme. Mais ça aurait pu vite être catalogué comme ça, finalement. Du coup, je trouve ça assez cool. Et on a plutôt vocation, le prochain salon, de le faire à Lyon, dans un lavoir public, dans les plans de la Croix-Rousse. Et puis, on aimerait bien monter dans le Nord aussi, chez les Belges.
Flo, les projets? 19 mars?
Alors, 19 mars, bah, vas-y, Tom, si ça ne te dérange pas.
Ouais, ça marche, je te prends le relais. 19 mars, concert de The Big Idea, quoi, groupe de La Rochelle qu'on a accueilli au salon de la dernière édition, avec Smoking Pistols, un groupe dont je fais partie qui est plutôt punk rock, et DJ Dark Fader, qui est un DJ du coin.
Et qui est super... Le nom te fait rire.
C'est... Ouais, mais j'adore, c'est... en plus je c'est un super pote et ça me fait trop plaisir qu'il soit là. Donc ce sera au local 5, c'est un local à créer, 10€ l'entrée, en gros voilà, il y a encore des places dispo.
Comment on fait pour réserver? On vous trouve où?
Sur Eloasso, okay. Du coup sur la plateforme de billetterie, et le nom de l'événement c'est Life of Mars, du coup voilà, il n'y a plus qu'à réserver et à venir profiter.
Alors le projet d'après, ça va se passer au Lavoir.
À Lyon donc.
À Lyon, ouais.
À Lyon donc, c'est ça. Et donc ça, c'est encore un peu secret pour l'instant. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on va nous retrouver à Lyon et qu'on a des grandes idées pour ce projet-là. Et sinon, dans l'immédiat, après le concert de Live of Mars, il va y avoir... est-ce qu'on parle des prestations, Tom?
Je pense que ça peut être pas mal, ouais, de dire où est-ce qu'on intervient... Notamment voilà, ouais, sur les semaines à venir, on va être à l'Electronic Peak. C'est un festival d'électro à Bourg-Saint-Maurice, dans la station Les Arcs, avec ouais, des grosses têtes d'affiches. On intervient surtout pour la presta technique, hein, pour filmer, faire un after movie, tout ça. Et il y a un autre événement alors à Montélimar, avec une asso qui s'appelle Candy Sound, qui sera plutôt courant avril. Où là, ce sera vraiment événement électro dans un monument historique, à définir encore le projet en construction. Mais, donc on a pas mal de projets comme ça en co-création avec d'autres assos.
On termine avec les éléments de communication.
Et bien sûr, tous les réseaux classiques, Facebook, Instagram, vous avez...
Twitter, sur Bandcamp, sur toutes les plateformes streaming, Spotify, Deezer, Apple, Tidal, etc. Notre chaîne YouTube, où on peut voir toutes les vidéos qu'on fait pour les autres et pour nous. Et sur notre site web, doumentrarecords.com.
On a rien oublié, Flo?
Venez nous écouter et venez nous voir. Qu'on se fasse des potes et puis qu'on agrandisse la secte Doumentra.
Et on se quitte avec Hooper.
Carrément. Et artiste électro, aussi monteur, qui est... Cette EP est trop cool. J'ai rien d'autre à dire.
Merci, Mallory.
Au plaisir, merci à toi de nous avoir reçus.
Merci Tom.
Merci.
Et merci Flo.
Merci à toi.
À la prochaine. Merci.